Mémodio, une mémoire sonore.
J'ai deux questions à vous poser. La première va être relativement courte. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez d'une intervention possible et de quelle nature des deux principaux voisins de l'Iran, à savoir la Turquie et le Pakistan? Et ça, c'est la première question. La deuxième, c'est une question très, très générale. Vous l'avez un tout petit peu abordé indirectement en parlant de Marsheimer tout à l'heure. Et donc, c'est une question, c'est la question à 1000 balles, quoi. C'est, à votre avis, c'est une question qui est reposée au travers d'articles qui sont parus sur comment est-ce que Trump s'est fait plus ou moins forcer la main, ou peut-être pas, etc. Est-ce que c'est le chien qui remue la queue, ou est-ce que c'est le queue qui agite le chien, à savoir, bon, est-ce que le soutien inconditionnel ou plus ou moins inconditionnel à Israël de la part des États-Unis correspond à son intérêt géostratégique général depuis longtemps, ou est-ce que c'est l'influence des différents lobbies pro-israéliens ou israéliens qui détermine le comportement politique de la majorité américaine. Bon, ça c'est une question qui est traitée depuis des dizaines d'années, je crois.
Alors, sur la Turquie et le Pakistan, ça m'amène, ça me permet de compléter un peu mon propos liminaire. Je crois que on n'a pas conscience, même si j'imagine que nombre d'entre vous êtes informés, vous voyez bien l'importance de ce que la gravité de ce que nous vivons. Et je crois que on n'a pas peut-être pris suffisamment la mesure de la dimension quasi planétaire du conflit qui se déroule en ce moment au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'on continue pour beaucoup à penser que c'est une guerre qui est loin de nous, que c'est un déferlement de violence qui va, ma foi, finir par se terminer et qui ne nous concerne en rien. Or, on a, que ce soit sous une approche militaire ou géopolitique ou géostratégique, on a tous les germes d'un conflit, je dirais, majeur, mondial, qui sont réunis. C'est-à-dire que vous avez déjà des acteurs qui sont déjà engagés, à savoir Israël, les États-Unis, l'Iran. Vous avez des acteurs qui regardent ce qui se passe autour d'eux et qui sont très inquiets et qui ont eux aussi une capacité militaire qui n'est pas négligeable. Donc l'Iran, la Turquie et le Pakistan. Et puis vous avez des acteurs éloignés, mais qui aujourd'hui commencent vraiment à s'inquiéter dans la mesure où leurs intérêts économiques sont touchés. Je pense notamment à la Chine et au Japon, qui aujourd'hui vont devoir, diminuer les stocks d'essence, qui vont devoir faire, des coupes dans ce qui est alloué aux compagnies aériennes, etc., et qui voient leur économie être durement impactée par la fermeture, en tout cas les troubles autour du détroit d'Ormuz. Et donc, l'idée première, quand on voit ça, c'est de se dire jamais tel pays ou jamais telle force ne s'investira parce qu'il y a trop à perdre. L'idée du jamais, c'est ce qui a conduit à la surprise chez beaucoup de gens, quand un matin, en se réveillant, on a appris que les Russes avaient envahi l'Ukraine. Il y a 4-5 ans, je peux vous sortir une vingtaine de papiers où les gens disaient « mais jamais, jamais ». Trop d'implications, la communauté internationale, les sanctions et tout. Les Russes l'ont fait. Alors, qu'est-ce qui empêche que le Pakistan et que la Turquie interviennent? C'est que pour le moment, ils ont trop à y perdre. Ils ne veulent surtout pas mettre le moindre bout d'ongle dans cet engrenage. La Turquie, parce que c'est deux situations différentes, la Turquie, c'est le régime de la duplicité. C'est-à-dire, vous avez un président, Erdogan, qui multiplie les déclarations incendiaires contre Israël, qui n'arrête pas de critiquer Israël, mais dont l'entourage familial fait de très bonnes affaires en Israël. Donc il y a quand même, la Turquie c'est un partenaire économique de longue date d'Israël, c'est le premier pays musulman à avoir reconnu Israël en 1949. L'armée turque a fait des manœuvres, a accueilli des officiers israéliens. Donc c'est deux pays qui ont quand même des relations assez importantes. Et moi, je ne crois absolument pas à l'agitation d'Erdogan sur cette question-là, même s'il y a eu des brouilles, notamment sur la première flottille de Gaza en 2010. Il y a encore, pour le moment, les Turcs, eux, se disent qu'il y a une situation de trouble. Et lisent la situation par rapport à leur intérêt immédiat. Et leur intérêt immédiat, c'est de faire en sorte que les Américains et qu'Israël soient d'accord avec l'idée qu'il faut contrôler les Kurdes en Syrie, qu'il faut empêcher que le Rojava puisse se développer. Et voilà. Et donc, tout le reste, dans la vision turque, il y a même des articles dans la presse turque sur comment l'économie turque peut encaisser le choc parce que l'Iran était un partenaire économique assez important pour les exportations turques. Donc voilà, pour le moment, il y a une situation, je dirais, d'attentisme. Et de toutes les façons, les conditions pour que l'armée turque se range demain aux côtés de l'Iran ne sont absolument pas... Je rappelle que la Turquie est un membre de l'OTAN et on les voit mal... combattre un allié des États-Unis. Le Pakistan est dans une position un peu comparable parce que c'est tout de même un obligé des États-Unis. L'armée pakistanaise est très très liée aux États-Unis. Il y a un lien assez fort. Mais il y a un grand mais. C'est le lien, l'accord secret, enfin l'accord dont on vient de dévoiler quelques éléments avec l'Arabie Saoudite. Les Pakistanais ont un accord de défense important avec l'Arabie Saoudite. Et donc, si demain les Saoudiens décident, puisque pour le moment ils sont dans la retenue, ils ont refusé de guerroyer aux côtés des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, eh bien, si demain l'Arabie Saoudite décide de s'impliquer un peu plus et de déployer son armée aux côtés des Israéliens et des Américains, le Pakistan sera obligé de soutenir l'Arabie Saoudite, ce qui va lui poser un gros problème géopolitique, y compris par rapport à ces minorités chiites qui existent, qui sont plutôt pour l'Iran. Mais tout ça, pour le moment, il y a des filets importants, des barrages importants, mais tout ça peut évoluer très rapidement, vu qu'on a du mal à voir comment la situation évolue. Et j'en arrive à votre deuxième question. C'est qu'on a tout de même cette situation particulière où on a un locataire de la Maison Blanche dont personne, je dis bien personne, ne peut prédire le comportement. Cet homme s'est fait élire en jurant ses grands dieux que l'Amérique ne sera plus engagée dans un conflit. Il a, un soir, il menace d'annihiler une civilisation. Le lendemain, il négocie. Là, il a décidé de fermer, de faire un blocus du détroit d'Ormuz, alors qu'une semaine avant, il disait que les blocus étaient inégaux, de détroit étaient inégaux. Donc, au-delà même de l'intérêt américain, c'est que veut ce monsieur ? Que veut Trump ? Et ça, on est incapable de répondre à cette question, si ce n'est satisfaire son ego, son besoin de reconnaissance, etc. Et on sent bien que dans les milieux politiques américains, son vice-président, qui espère lui succéder, n'a pas du tout les mêmes regards. Il est de l'école réaliste, J.D. Vance. Hein. L'Amérique n'a pas à s'occuper du reste du monde, elle n'a qu'à défendre ses propres intérêts. Et effectivement, dans ce cas de mesure, défendre ses propres intérêts, ça veut dire prendre de la distance avec Israël, parce que ce à quoi on va assister au cours des... Ce à quoi on assiste déjà, c'est que l'anti-américanisme revient en force à travers le monde, que les États-Unis, qui avaient réussi à bâtir une sorte de soft power assez important avec l'élection d'Obama dans le monde, c'était hier, hein, on a oublié, mais il y a quelques années, avant l'élection de Trump, l'Amérique, c'était tendance. On a un nouveau président, noir, démocrate. Là, aujourd'hui, c'est une autre situation. Mersheimer a sorti un bouquin que La Découverte a traduit sur ce que coûte aux États-Unis l'alliance avec Israël. Mais comme toujours, un pays, ce n'est pas un monolithe. C'est pour ça que c'est toujours très difficile de dire l'Amérique, la France, la Chine, etc. Parce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez des vecteurs puissants qui veulent, qui sont pro-israéliens par intérêt. Il y en a deux au moins. Vous avez le secteur de la défense, où vous avez des relations assez importantes entre les deux. Vous avez des entreprises américaines qui vendent aux Israéliens. Vous avez des entreprises israéliennes qui vendent aux Américains. Tout ce beau monde développe de nouveaux matériaux. La guerre à Gaza, la guerre au Liban leur permet de, pardon de le dire ainsi, mais d'améliorer leurs produits. Donc il y a quand même quelque chose d'important. Et l'autre vecteur qui plaide pour une ligne, je dirais, de coopération toujours aussi forte, c'est la technologie. Ça va de pair, mais la Silicon Valley est globalement, dans sa majorité, pro-israélienne. Et vous avez des entreprises de développement, notamment dans l'intelligence artificielle, qui sont présentes à la fois en Israël et aux États-Unis. Et ça, c'est des influences bien plus, je dirais, importantes, qui pèsent bien plus, ou, disons, autant que ce que pèsent les évangéliques sur le plan de la théologie, du rapprochement avec Israël. Et malheureusement, dans ce système-là, vous n'avez pas la moindre, je dirais, esquisse de pression exercée, encore une fois, j'y reviens, par le monde arabe. C'est-à-dire que quand Trump dit « j'ai besoin de 1 000 milliards de dollars d'investissement dans mon pays pour l'intelligence artificielle », l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis se dépêchent de dire « oui, oui, mais on sort notre chéquier, on va payer ». On ne dit pas « mais on est prêt à payer, mais on aimerait vous parler des Palestiniens d'abord, etc. Et » Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, on a un rapport de force assez inégal, hélas.
Bonsoir. Dans la continuité de ce que vous dites, j'aimerais que vous nous expliquiez plus précisément le silence des gouvernants des pays arabes, donc des États arabes. Le deuxième point, c'est est-ce que l'Algérie n'a pas une voix dissonante au niveau des Nations Unies, a défendu de manière âpre la Palestine, enfin Gaza, hein, est-ce que les positions de l'Algérie n'ont pas été relativement fortes et bien défendues au niveau des Nations Unies? Et la troisième question, c'est qu'effectivement, si l'Algérie a pu s'opposer un petit peu à Trump, hein, au niveau des Nations Unies, autant sur l'Iran, elle s'est abstenue et elle ne semble pas prendre la position de l'Iran, mais plutôt la position de la défense des pays arabes et donc des intérêts américains et israéliens. Et enfin, quelles sont les conséquences pour ce pays?
Alors, pourquoi il y a un silence? D'abord parce qu'il y a beaucoup de régimes arabes ne survivent que par le fait qu'ils escomptent plus, ils attendent plus du soutien à l'extérieur que chez eux. Mon jugement est très sévère à l'encontre de l'ensemble du monde arabe. C'est un secret pour personne que de dire qu'il n'y a pas de démocratie, que les peuples sont réprimés, que la moindre tentative de transition démocratique se termine toujours très mal. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en ce moment en Tunisie et ce qui s'est passé en Syrie, que toute espérance démocratique est diabolisée et soumise, soi-disant, à des influences, et décriée parce qu'elle serait soumise à des influences extérieures. Et donc, vous avez des États qui, aujourd'hui, j'en reviens à la question de la légitimité. C'est-à-dire que vous avez des gouvernements, des régimes, qui ne peuvent pas nous faire croire qu'ils ont une légitimité populaire. Parce que si demain des élections libres et indépendantes étaient organisées dans la majorité des pays arabes, je mets à part les monarchies du Golfe parce que c'est encore plus compliqué, mais en tous les cas, on aurait des résultats électoraux qui viendraient à bouleverser la hiérarchie de pouvoir qui existe aujourd'hui. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a très peu de manifestations pour la Palestine qui sont autorisées. Il y en a très peu. En Égypte, il y en a eu quelques-unes, à la condition que les pancartes brandies soient du type « le peuple remercie le président Sissi pour ce qu'il fait pour la Palestine ». Donc voilà. Alors, vous avez raison de dire que l'Algérie a, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, a mené une guérilla, diplomatique sur cette question, en essayant à chaque fois de mettre des résolutions, en essayant d'empêcher, de rappeler. De faire en sorte que le Conseil de sécurité se saisisse systématiquement de la question de Gaza, même quand les Américains n'en avaient pas envie, même quand la France n'en avait pas envie. Ça, je vous le reconnais absolument. Néanmoins, l'Algérie a voté le plan Trump, qui n'est rien d'autre qu'un plan colonial. Le plan Trump, c'est du colonialisme. C'est de dire on va gérer les affaires d'un peuple sans que ce peuple ne soit concerné. Et donc, pour un pays qui se revendique de la longue lutte contre le colonialisme, c'est quand même dommage. Mais le problème n'est pas là. Si vous voulez, la guérilla diplomatique, c'est important, c'est symbolique. Ce que n'a pas fait le monde arabe dans son entièreté, c'est que si vous comparez avec les années 70, les années 73, la guerre du Kippour, il y a eu un moment de boycott, il y a eu l'arme du pétrole, il y a eu l'arme financière, il y a eu l'arme du désinvestissement, il y a eu l'arme des sanctions contre certaines entreprises, il y a eu même je vous informe, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il existe encore d'ailleurs, il y a eu même la création d'un bureau du boycott d'Israël qui dépend de la Ligue arabe et dont le siège est toujours à Damas. Il n'y a personne, le bureau est fermé aujourd'hui. Donc il y a eu ces questions-là, il y a eu l'idée de créer un rapport de force pour dire à l'Occident, nous savons que vous soutenez Israël, nous ne pouvons pas peser de manière définitive sur cette question, mais au moins nous avons les moyens de vous faire non pas plier, mais composer et négocier. Aucun pays arabe n'a eu cette démarche-là. Alors on dit c'est la mondialisation, c'est ceci. Peut-être, mais en tous les cas, ça en dit long sur le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la politique réaliste qui a pris le dessus. C'est-à-dire qu'on peut faire de la guérilla diplomatique, on fait passer des initiatives, etc. et tout, mais on ne va pas plus loin. On ne punit pas ceux qui soutiennent ou ceux qui arment ceux qui massacrent les Palestiniens. Et c'est en cela qu'il y a un gros changement majeur dans le comportement des pays arabes. Alors certains sont dans la collaboration plus que d'autres, puisque l'exemple le plus grand, c'est les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont totalement main dans la main avec les Israéliens, ont ouvert une ambassade, ont normalisé, ont même contribué à envoyer des produits aux Israéliens quand les houthistes du Yémen avaient bloqué le Bab el-Mandeb. Donc il y en a qui font ça, qui sont plus dans la collaboration que d'autres. L'Algérie fait partie de ces pays qui n'a pas de relation diplomatique officielle avec Israël, qui n'a pas normalisé. Voilà, il y en a quelques-uns. La Tunisie, c'est le cas aussi. Mais aucun ne prend, dans ce qu'on appellerait en diplomatie, des mesures proactives de rapport de force. Pour moi, il est symbolique de voir tout de même qu'en 2024 ou 2025, je ne sais plus, pendant que les bombardements de Gaza se poursuivaient, on a quand même eu une escadre maritime américaine reçue avec les honneurs au port d'Alger. Jamais ça aurait pu exister dans les années 70 ou 80. dans la mesure où on aurait considéré que les Américains étant les alliés d'Israël dans le conflit à Gaza, il y avait lieu d'avoir un peu de retenue. Et on retrouve ça par rapport à l'Iran. Effectivement, vous avez une position où les pays arabes qui ne sont pas du Golfe ont été obligés d'adopter une double position de retenue. Première position de retenue, c'est d'abord vis-à-vis de leur solidarité réelle ou supposée avec les pays du Golfe. C'est-à-dire qu'aucun pays, puisqu'il y a quand même des relations économiques importantes avec les pays du Golfe, prendre position ouvertement pour l'Iran, c'est se mettre à dos de manière définitive tous les pays du Golfe. Alors, l'Algérie a de très mauvaises relations avec les Émirats arabes unis, mais elle a encore de bonnes relations, voire de très bonnes relations avec les Saoudiens, et les Algériens ne veulent pas se mettre à dos les Saoudiens en allant soutenir de manière immédiate l'Iran dans ce qui se passe. Et puis il y a le fait que dans le rapport de force aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gens ont pris conscience que le président des États-Unis est capable de tout et de n'importe quoi. Il peut demain décider que, puisque l'Algérie n'a pas été suffisamment proche de la position hostile à l'Iran, eh ben les TAC, 400% de taxes sur les produits algériens qui rentrent aux États-Unis, et notamment les hydrocarbures. Comme ça, du jour au lendemain, par un tweet. Et ça, c'est quelque chose que les diplomates algériens ont intégré depuis très longtemps. Et puis, il y a aussi le rôle, ça on n'en parle pas, parce que c'est la guerre oubliée, pardon, je rentre dans des détails un peu plus à chaque fois, mais vous avez en ce moment une négociation qui est en train d'être menée, tripartite, à la demande des États-Unis, entre l'Algérie, le Maroc et le Sahara occidental. Et vous avez un courant au sein du pouvoir algérien qui veut aboutir à une solution. Donc si vous êtes dans une négociation avec votre voisin adversaire qui, lui, s'est dépêché de normaliser avec les Israéliens, et que vous avez l'Amérique qui fait pression sur vous, mais qui en même temps essaie de vous courtiser parce que vous avez des hydrocarbures, vous réfléchissez à deux fois avant d'adopter une position hostile par rapport à ce que veut le président Trump. Et donc, voilà, la situation, elle en est là. C'est un constat de fragilité d'un monde arabe qui ne pèse pas, qui est incapable de peser, alors qu'il pourrait. Mais bon, il n'y a jamais eu d'union du monde arabe. Mais en 1973, vous savez, les petites choses qui ont permis le développement et la résistance entre guillemets des Palestiniens, en tout cas le fait que l'UNRWA a pu se développer, que beaucoup de choses ont pu être faites sur le plan de la diplomatie, ça tient tout de même à la position de fermeté que les pays arabes ont adoptée en 1973. Position de fermeté qui n'a cessé de se dégrader au fil du temps, et le premier coup de, je dirais pas de canif, mais de poignard que cette fermeté a subi, c'est la décision unilatérale de l'Égypte de signer des accords de paix avec Israël de manière séparée. Alors que jusque-là, la position, c'était on négocie tous ensemble au nom des Palestiniens. Voilà.
Bonjour. Alors, je voulais vous demander ce que vous pensiez des pétitions qui circulent actuellement, savoir la pétition contre la loi Yadan, contre l'accord commercial entre Israël et l'Union européenne, ou bien même la dernière pétition sur la peine de mort concernant les prisonniers palestiniens. Est-ce que ça peut influer sur la politique de nos dirigeants français ou européens, ou est-ce que ça peut influer même sur la société civile israélienne, ces pétitions ?
Alors, je ne sais pas si ça va influer sur les Israéliens. Je pense que sur le personnel politique, on l'a vu aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'il n'y aura pas de débat sur le texte Yadan. Elle a été classée en commission. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle tout de même. Non pas le fait qu'elle ait été classée, mais qu'on voit ces pétitions apparaître. Il y a l'idée qu'on ne peut rien faire. Il y a l'idée que tout est joué, etc. Au contraire, moi, je pense que, je ne sais pas ce sur quoi ça va mener, mais je pense que c'est un signe positif, je dirais, de conscience politique que les gens ont par rapport à ça. 700 000 personnes qui signent une pétition, c'est pas rien. 1,2 million de personnes qui signent la pétition contre la loi du plomb sur les pesticides, c'est pour moi un signe de potentielle vitalité politique. Que les politiciens, que le système politique résiste
ne veuille pas entendre ça, c'est, je dirais, presque la règle du jeu. Mais c'est ça qui est important, c'est que ça continue. Hier, je discutais avec des gens à Perpignan, et je leur disais, mais combien d'entre nous, quand ils en ont l'occasion, interpellent leurs députés, par écrit, par exemple, en disant, monsieur le député, j'ai appris que vous aviez accepté un voyage tout frais payé en Israël à l'invitation de l'organisation Elnet, pourriez-vous m'en dire plus ? Ça, on n'a pas ce réflexe-là en France. C'est des réflexes qui existent dans les pays anglo-saxons, qui existent un peu partout. Nous, on continue à laisser nos députés faire ce qu'ils ont envie de faire, à œuvrer, je dirais, dans l'hémicycle, comme s'ils n'avaient jamais été redevables de quoi que ce soit vis-à-vis de leurs électeurs. Je pense que cette culture-là, même si ça prendra du temps, c'est cette culture-là de la pétition, de la mobilisation qu'il faut continuer à encourager. Et tôt ou tard, ça aura des effets, je dirais, sur le plan électoral. Moi, j'en doute absolument pas. Je trouve que c'est important de le faire. Alors, bien entendu, avec l'émergence d'Internet, on a vu affleurer plein de pétitions sur tout et n'importe quoi. Là, pour le coup, sur des sujets comme ça, c'est fondamental. C'est important.
Même audio. Une mémoire sonore.
Bonjour. J'avais une question qui était plutôt sur les Palestiniens nouveaux, et sur les options politiques qui s'offrent à eux aujourd'hui. Est-ce que, malgré la situation et ses difficultés, réussit à émerger un mouvement politique qui serait alternatif à ce qui s'offre à eux, c'est-à-dire pas grand-chose en réalité, puisque si on fait le bilan, l'autorité palestinienne est déconsidérée. Le Hamas, je ne sais pas quelle image il a au sein de la population gazaoui. Les multiples milices mafieuses qui sont entretenues par Israël ne sont pas des options politiques viables non plus. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui émerge ? Et s'il y a quelque chose, sur quel modèle peuvent-ils prendre appui, prendre inspiration, quand on voit ce que sont les États arabes, comme vous l'avez justement dit ? Quand on voit ce que sont aussi nos démocraties occidentales qui leur sont hostiles et qui glissent lentement vers l'autoritarisme et l'extrême droite, est-ce qu'on voit apparaître quelque chose de cet ordre-là dans la population palestinienne ?
Alors c'est une très bonne question parce que il y a quelques années, j'avais fait un reportage justement en Cisjordanie auprès de la jeunesse palestinienne et notamment la jeunesse estudiantine justement. Leur dire mais vous voulez quoi, quel est, dans quoi vous militez, quel est votre vecteur politique. Et à l'époque déjà on avait un rejet mais vraiment massif dans nos interviews, je l'avais fait avec Olivier Pironnet, dans les interviews on avait eu un rejet massif des deux grands partis, que ce soit le Hamas ou le Fatah, donc le parti dominant de l'autorité palestinienne, avec des gens assez, je dirais, déçus par l'action politique et par ce que leur proposaient ou ce que ne leur proposaient pas les partis politiques palestiniens. Il faut comprendre que le Fatah de Abbas, même celui de Arafat des dernières années, ça a été aussi une large entreprise de dépolitisation de la population palestinienne. Je donne un exemple concret. Pendant très longtemps, les jeunes, la jeunesse palestinienne, c'était l'été, vous aviez des camps, alors les adversaires de la cause palestinienne diraient des camps d'endoctrinement, mais c'était des camps où on vous éveillait à la conscience politique, aux théories politiques, à la notion d'engagement, etc. Tout ça a été balayé, empêché. D'une manière générale, après les accords d'Oslo, on a dit aux Palestiniens « consommez, endettez-vous et consommez ». Ça a été un peu... l'autorité palestinienne a appliqué des politiques libérales, voire ultra-libérales, promouvoir le crédit à la consommation, etc. Et, tout. Et donc les initiatives qui existent, les courants, je dirais, qui sont proto-politiques, ce n'est pas encore des courants politiques, mais c'est des courants qui ont trait à la préservation, qui sont conscients de la dangerosité du moment, du fait qu'il y a très peu de perspectives positives, mais qu'il y a des urgences, et que parmi les urgences, il y a des questions de passation, de transmission et de préservation de la mémoire palestinienne, de la culture palestinienne, du lien interpalestinien. C'est-à-dire que ça peut paraître bizarre, mais des gens qui vous expliquaient que après en être arrivé à 3-4 générations, vous aviez des gens qui devraient autour de la jeunesse pour que les Gazaouis, les jeunes de Gaza, se sentent pleinement proches d'un Palestinien de Jénine ou de Ramallah ou de je ne sais où. Et donc, il y a ces mouvements-là qui existent, qui sont assez, je dirais, actifs, qui travaillent beaucoup sur ces questions-là, du passé, de le fait d'inventorier tous les villages qui ont été détruits, etc. Donc là, pour le coup, avec Gaza, c'est encore plus terrible. Mais il y a ça. Pour moi, c'est des mouvements proto-politiques qui préparent l'avènement d'une nouvelle génération, parce qu'effectivement, on voit mal, on a du mal à voir où est la relève par rapport à ce qu'a pu être le personnel politique palestinien jusqu'à présent. Et pour vous donner une idée de l'importance de ce mouvement, c'est pas rien, c'est pas juste du folklore, c'est pas des gens qui ont envie juste de défendre le Za'atar et le Debke. Mais ces gens-là sont combattus de manière féroce par les Israéliens. C'est-à-dire qu'il y a une obsession israélienne de dissoudre ces associations, de les poursuivre, de les pourchasser. Et donc, quand je vous parle de préservation, ça va aussi sur le plan agricole, sur la défense des cultures ancestrales, des savoir-faire, les semences, etc. Les Israéliens sont, même ça, ciblent ça de manière assez violente et de manière assez récurrente. Voilà où se déroule aujourd'hui le combat, l'engagement d'un jeune Palestinien de 20 ans aujourd'hui qui sait très bien que le Fatah va lui proposer de faire quelques manifestations de parade où on va crier mort à l'Amérique, etc. et tout, mais qui n'ont rien de concret parce que l'idée, c'est de ne pas faire trop de bruit. Parce que c'est ça l'autorité palestinienne aujourd'hui, hein, on le voit bien dans, par rapport à ce qui se passe. Mais ces gens-là communiquent. Donc il y a plein de collectifs plus ou moins officiels, officieux, qui agissent, qui sont aidés beaucoup par la diaspora, qui jouent un rôle assez important. Bon, c'est pas un mouvement politique en soi, mais c'est des choses qu'il faut aider, parce que c'est des germes qui peuvent donner une dynamique importante.
Oui. Merci pour votre intervention. Alors, je voudrais vous poser une question, mais je sens que je vais avoir quelques difficultés à la formuler. Je voudrais parler des peuples conquérants, c'est-à-dire du peuple israélien, voire américain, et revenir sur, par exemple, les États-Unis, malgré leur puissance de l'époque, ont tout de même capitulé au Vietnam, mais ça a été dû, je pense, grâce aux efforts intérieurs du peuple américain, également l'URSS qui s'est écroulée. Enfin, alors, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, les Israéliens, le peuple israélien, comment peut-il le supporter, ce sont des êtres humains tout de même. Hein. Comment peuvent-ils admettre ce qui se passe? Moi, je pense que quelque part, Israël, aujourd'hui, est en grande difficulté. Parce que, enfin, c'est là où j'ai quelques difficultés à m'exprimer, parce que c'est même insupportable. Pour ce peuple-là. Je ne comprends pas comment cette guerre, comment ils peuvent continuellement rebondir, ne serait-ce que sur l'armement. Tous les grands pays sont en rupture d'armement, de bombes, que ce soit la Russie, l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis, sauf un pays qui bombarde tout le monde, c'est Israël. Bon, il y a un peu d'amalgame dans ce que je suis en train de vous dire. Mais quelle va être là? Comment va se comporter ce peuple? Je vous pose cette question avec une certaine émotion. Merci.
C'est une vaste question, mais je pense que... Alors, il y a des choses qui sont importantes, c'est-à-dire que quand on regarde les télés israéliennes, plusieurs canaux, notamment les canaux populaires, ou les chaînes d'information, vous avez un... Gaza, ça n'existe pas ou presque pas. On en est encore au 7 octobre. Donc, ces témoignages de famille, le choc ressenti. Vous avez des talk-shows, énormément de talk-shows, de gens qui sont dans l'outrance par rapport à ce qui devrait être fait. On a entendu des gens dire qu'il fallait utiliser la bombe atomique contre les Iraniens, contre le Hezbollah, etc. Donc on est quand même dans une ambiance très guerrière, très... Alors effectivement, si, quand vous regardez le papier de Gideon Lévy de ce mois, il dit, mais comment on va faire pour gérer tout ça dans l'avenir? Comment, après ce qui a été fait, quand il s'agira de s'asseoir et de se regarder dans la glace, réfléchir à ce qui a été commis au nom d'un idéal qui n'était absolument pas celui-ci, la création de l'État d'Israël. Et donc, certains analystes vous proposent des comparatifs avec l'Antiquité. On évoque Sparte, cité guerrière, qui ne vivait que par la guerre et qui intériorisait la guerre dans son mode de fonctionnement, dans le mode de création des élites, dans le mode des rapports sociaux. Et c'est vrai que c'est une société très militarisée. Le service militaire, ça dure 3 ans. Tout le monde, très peu de gens y échappent. Bon, il y a les religieux qui échappent, mais il y a régulièrement des polémiques pour dire qu'eux aussi devraient faire le service militaire. Donc il y a ce pays-là et cette société-là a énormément de problèmes existentiels à régler, hein, ça c'est clair. Mais l'actualité, les faits immédiats donnent du sursis constamment quand ils sont gérés par des gens comme Netanyahou qui savent très bien ce qu'ils font et qui donnent, je dirais, un gain sur des années, etc. Et là où les Israéliens se trompent profondément, par exemple, c'est de l'idée de croire qu'ils seront acceptés un jour au Proche-Orient sans qu'il n'y ait eu une solution à la question palestinienne. Ça, quand vous discutez avec des Israéliens et même des intellectuels, ils ont du mal à comprendre ça. Leur dire que toutes les victoires militaires qui seront réelles, puisque Israël a une supériorité militaire qu'aujourd'hui personne ne conteste, eh bien, cette supériorité militaire, elle ne fera jamais que ce peuple sera accepté. Il sera craint, certes, mais il ne sera jamais accepté du fait de l'injustice faite aux Palestiniens. Et quand vous expliquez ça, on se heurte à un mur. C'est-à-dire qu'il y a cette conviction que le bonheur des Palestiniens peut être fait ailleurs que sur leur terre natale. Les Israéliens parlent rarement de Palestiniens. Ils disent les Arabes. Quand vous les écoutez, ils disent les Arabes. Et en fait, c'est pas aussi innocent que ça. Parce que les Arabes, ça veut dire qu'ils peuvent aller vivre ailleurs dans le monde arabe. Ça veut dire qu'on peut les envoyer en Jordanie, en Tunisie, ou que sais-je encore. Il y a cette idée-là qui est très forte. L'impensé de la séparation définitive et totale, il est encore là. Et cet impensé-là, il permet tous les accommodements possibles et inimaginables avec sa conscience. Ah ben ça... Ça, je ne sais pas, ça fait quand même plusieurs décennies que ça dure. Et on en est là. Et vous avez en face un peuple qui refuse, lui, de céder et qui continue à s'accrocher à sa terre. Et c'est tout le drame de la situation.
Oui, mais déjà pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur, il y a quelqu'un d'assez connu qui s'appelle Gérard Haddad qui répond à cette question. C'est un psychiatre tunisien juif. Et il était sioniste avant. Et puis il a dit une très belle phrase qui a dit, parce que lui, donc, il y était allé, hein, il était sioniste, donc il est allé vivre en Israël, et il dit « Le sionisme est une maladie psychiatrique dont la vie à Israël m'a guéri. » Voilà ce qu'il a dit. Et il explique très bien, dans différents ouvrages à lui, ou même dans différentes vidéos, pour ceux qui préfèrent les vidéos plutôt que la lecture, où il explique comment que ça se passe, en fait. Pourquoi est-ce que les gens sont, quelque part, endoctrinés, en fait, et qu'ils ne peuvent pas faire différemment dans l'état actuel des choses. En gros, je résumerais ça par tous les pouvoirs dans le monde entier, en fait, manipulent sa population. Et le premier à souffrir en fait de ce qui se passe en Israël est la population israélienne elle-même, puisque c'est la première à être sous le coup de la manipulation politique gouvernementale. Voilà. Bon, enfin, après, il parlera mieux que moi de ce qu'il raconte. Il y a quelque chose quand même qui m'interpelle. Tout à l'heure, vous avez parlé de la peine de mort et sur la peine de mort qui est là-bas, mais la peine de mort, en fait, c'est qu'ils veulent l'officialiser. Elle a toujours existé. Hein, et puis en plus, elle est de manière totalement arbitraire, puisque chaque colon a le droit de tuer un Palestinien s'il estime que c'était nécessaire. Donc là, depuis la guerre à Gaza, la dernière en tout cas, dont on parle, depuis le 7 octobre, le processus de colonisation de la Cisjordanie s'est accéléré, largement, et avec énormément de morts, et au quotidien dont personne ne parle. Mais c'est au quotidien des vingtaines et des vingtaines de personnes dans chaque on va dire, région de la Cisjordanie. Ça, personne n'en parle, mais c'est quoi d'autre que la peine de mort, de toute façon. Sachant que n'importe quel colon a le droit de tuer n'importe quel Palestinien s'il se revendique palestinien. C'est ce que vous disiez. On a d'un côté les Israéliens qui appellent les Palestiniens les Arabes et qui refusent de leur donner l'appellation palestinien, mais on interdit les Palestiniens de se nommer eux-mêmes Palestiniens. Ils n'ont même pas le droit d'avoir des drapeaux. Je veux dire, il y en a beaucoup qui se sont fait torturer juste parce qu'ils ont sorti des drapeaux. Enfin, voilà. Sur la peine de mort, elle a toujours existé, mais elle a toujours existé dans une continuité, j'ai envie de dire, coloniale. Parce que les exemples que vous avez cités, donc, ils sont extra-coloniaux. Mais dans l'époque coloniale, je veux dire, elle a toujours existé, cette peine de mort. Toujours, dans toutes les colonies tenues par, que ce soit par la France, par la Belgique, par l'Angleterre, etc. Je veux dire, la peine de mort était systématique. Donc, pas pour les autres, pas, elle n'existait pas effectivement dans le droit pour, on va dire, les citoyens. En tant que tel, mais tous les colonisés, eux, n'étaient pas des citoyens. Donc on pouvait les tuer. Et c'est ce qui se passe en Palestine. Et moi, je me demande, en fait, au milieu de tout ce fracas, est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu une lecture que je trouve malheureusement pas suffisamment marquée, parce que j'allais dire absente, elle n'est pas totalement absente, mais pas suffisamment marquée, sur la continuité d'une histoire et d'un siècle colonial, qui une page de l'histoire qui ne veut pas se fermer. On rappelle quand même qu'Israël, c'est la dernière colonie occidentale, puisque c'est une colonie occidentale qui a été voulue par les Français et par les Anglais. Donc c'est la dernière colonie. Alors, il en existe d'autres. Hein. Je tire ma révérence d'ailleurs à la Nouvelle-Calédonie, qui est toujours considérée au niveau de l'ONU comme une colonie, hein, qui est une colonie française, et que la France, normalement, s'était engagée à aller vers le processus de décolonisation. On l'oublie tout le temps, et ça se passe toujours à ce jour. C'est toujours une colonie sous couvert politique colonial, là-bas, de discrimination. Bref, cette parenthèse est enfermée, parce qu'elle me tenait à cœur pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, Israël, c'est quand même la dernière colonie qui a été fabriquée, qui a été créée, en fait. Et si on se met dans cette lecture de l'histoire d'une dernière colonie qui a été faite et reprise dans les termes, si on regarde les écrits, que les Américains ont pris le relais parce qu'il fallait qu'il y ait des gendarmes. Donc Israël est ouvertement le gendarme de la politique occidentale là-bas pour que jamais une union puisse se refaire et que ça reste toujours sous la main, les ressources, quoi, les ressources naturelles, soient toujours sous la main des Occidentaux qui ont voulu ces colonies dans ce but-là. Si on a une lecture, je me dis en fait, de cette lecture-là, est-ce que les choses d'un coup, elles ne prennent pas un autre sens, parce que c'est pareil, on parle du monde arabe, mais on parle du monde arabe dans une sorte en fait d'idée un peu fantasmée, parce que ce monde arabe n'a jamais existé, puisque de toute façon la destruction méthodique de l'Empire ottoman pendant un siècle voulue par l'Angleterre et la France coloniale, je veux dire, elles avaient ce but-là. Le monde arabe, est-ce que ce n'est pas fantasmé ? Alors oui, on a eu un petit sursaut, une petite parenthèse à l'époque, effectivement, des parties basses, donc avec Nasser en tête, puis ensuite avec Boumediene, etc., de Saddam Hussein. Donc oui, qui sont des baassistes qui, eux, ont porté cette lecture politique de ce qui se passait au Moyen-Orient qui a disparu. Et alors, aujourd'hui, on est quand même, pour la colonisation en tant que telle, on sait qu'aujourd'hui, quand même, la politique, elle se fait à grands coups de narration. Donc, c'est à qui va dire le narratif ? On le sait. C'est pour détourner un petit peu les opinions publiques, ou en tout cas pour les façonner. Et c'est connu aujourd'hui. Maintenant, on en parle beaucoup de cette destitution, de déstabilisation politique dont les États-Unis ont été des grands artistes jusqu'à présent, encore aujourd'hui. Donc voilà, je me demande pourquoi on n'accentue pas un peu plus là-dessus. Et si je veux avoir une lecture un peu marxiste de ce qui se passe là-bas, je me dirais, est-ce qu'on ne relirait pas ce qui se passe en Palestine actuellement ? Je dis bien actuellement, hein, pas avant, actuellement. S'il ne faut pas le relier avec ce qui se passe avec l'Ukraine et avec une histoire en fait, des gazoducs, parce que quand on a cette lecture, ben, on comprend que Trump, quelles que soient ses exactions, il fait exactement ce qui est attendu de lui. Alors, je sais bien que tout le monde dit « Oh, il est fou, il change d'avis ». Mais quand on regarde bien, il ne change pas d'avis. Il ne change pas d'avis. Et en tout cas, c'est dans les intérêts, des oligarques américains sur le pétrole, sur lequel on peut relier effectivement quand même ce qui se passe avec le pétrole vénézuélien et les complications que ça a mené parce que, justement, il n'a pas trouvé les investisseurs qui ont trouvé que ce n'était pas assez sécurisé pour pouvoir investir. Comme de par hasard, avec aujourd'hui ce qui se passe avec le détroit d'Hormuz, ça commence à éveiller des investisseurs. Donc voilà les questions que je pose. Si on ne peut pas faire une lecture économique à la façon un petit peu marxiste qui est dépassée aujourd'hui, apparemment, c'est bien dommage, et puis une lecture un petit peu donc historique de l'affaire qui permet d'un coup de tout démystifier, en fait, ce qui peut paraître compliqué sinon si on le regarde autrement. Voilà. Merci.
Je pense qu'il y a beaucoup d'écrits sur la question coloniale, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de gens s'expriment là-dessus. Effectivement, Israël, c'est de la colonisation à rebours d'un mouvement de décolonisation qui était entamé. Et moi, je cite toujours, peut-être l'ai-je fait ici, il y a quelques années, quand j'étais passé, un entretien que Ariel Sharon avait accordé à l'Express, ou au Nouvel Obs, c'était en 2005, et c'était quand il y avait l'évacuation de Gaza, l'évacuation unilatérale décidée par Israël de Gaza, dont on sait que les motivations étaient surtout de diviser le mouvement national palestinien et de permettre au Hamas de prendre l'ascendant sur le Fatah et sur l'OLP. Et dans cet entretien, ça a d'ailleurs été le titre retenu pour cet entretien, Sharon dit « Nous, donc les Israéliens, ou Israël, c'est comme l'Algérie française, mais nous, on ne partira pas. » Et je trouve que, et d'ailleurs ça a été le titre, et ça résume beaucoup de choses. Alors sauf que vous avez, comme toujours dans l'histoire, vous avez plusieurs générations, vous avez des gens qui sont nés là-bas. Lui, il venait d'ailleurs, il avait encore une mémoire entre guillemets européenne. Donc vous avez aujourd'hui un État qui existe, des populations scindées, qui refusent la vision qu'on peut avoir de leur pays en tant qu'État colonial, et qui s'y opposent, parce qu'ils brandissent une idée nationale, les guerres qui ont constitué une identité nationale israélienne, etc. Mais c'est vrai qu'à l'origine, on a du colonialisme, et que ce colonialisme s'étend. Et la mort du colonisé, la mort, je dirais, qu'on abat, sur lequel on tire de manière impunée, manière sans être puni, ça existe partout, effectivement. Ça a existé dans l'Algérie française, ça a existé dans d'autres colonies, l'Inde, etc. Là, la différence avec la peine de mort, c'est que c'est un circuit institutionnel, officiel. C'est ça qui crée une différence. C'est-à-dire qu'il y a une théâtralisation de la mise à mort de celui dont on ne veut pas, et de manière officielle. C'est-à-dire que l'État qui est censé défendre tout le monde. Et d'ailleurs, quand il y a un Palestinien qui est abattu par des colons, l'État fait semblant, puisqu'il y a des plaintes qui sont déposées, il y a des instructions, il y a des gens qui sont arrêtés. Certes, ils sont relâchés, ils ne sont pas condamnés, mais il y a tout un circuit qui donne à penser qu'il pourrait y avoir une justice qui pourrait être rendue pour punir le colon qui a tué le Palestinien ou qui a tiré sur tel ou tel enfant bédouin dans les hauteurs de Ramallah. Vous voyez la différence ? Là, on rentre, on va plus loin. C'est une institutionnalisation de la mise à mort. C'est-à-dire qu'on rentre dans des circuits qui sont intégrés à l'appareil juridique et donc on donne une certaine dimension légale, régulière à cet acte-là. Et c'est en cela qu'il y a une rupture par rapport à ce qui a toujours existé. Bien sûr que tout le monde le sait, il y a plein de Palestiniens qui sont morts et leurs assassins n'ont jamais été embêtés. C'est un peu comme si la France en Algérie avait décidé de mettre en place une peine de mort uniquement pour les musulmans. Ça n'a jamais été fait. Officiellement, la loi était la même pour tous, n'en déplaise. Et c'est vrai qu'il y avait des Algériens qui se faisaient assassiner. Et c'est d'ailleurs pour cela, en tout cas moi personnellement, je fais partie de ces gens qui sont très ultra critiques, pour ne pas dire autre chose, à l'égard de l'étranger de Camus, qui veut nous faire croire qu'un Européen qui tue un Arabe est condamné à mort. Alors on me dit, mais il n'a pas été condamné à mort pour ça, il a été condamné à mort parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère et qu'il y a toute une réflexion sur l'absurde, etc. Je veux bien, mais en tous les cas, il y a toujours eu, dans les systèmes coloniaux, la volonté de donner les apparences, de garder les apparences légales, de faire en sorte qu'il y ait un système qui soit inattaquable au sens des valeurs, sauf pour les cas que je vous ai cités. Et là, on rentre dans un vrai souci. Alors après, sur la question coloniale, bon, il y a des Israéliens qui partent, mais quand vous discutez avec les Palestiniens, etc., et tout, beaucoup savent, ou alors il faudrait une inversion du sens de l'histoire, mais peut-être c'est une hypothèse, beaucoup disent, ces gens-là, ils sont là pour rester. Ils vont rester. Peut-être que certains d'entre eux vont repartir. Peut-être que les Juifs originaires de Russie, d'Ukraine ou des pays baltes vont finir par en avoir assez et vont repartir. Mais en tous les cas, il y a une population israélienne qui est destinée à rester sur place. Et c'est elle qui doit négocier la place qu'elle aura et accepter que les Palestiniens aient une place. Et donc, ça veut dire qu'il faut oser imaginer d'autres solutions que la solution à deux États, dont personne... Moi, maintenant, personnellement, je me méfie de tous les gens, de tous les hommes politiques qui disent « Oui, mais moi, je suis pour la solution à deux États. » En fait, c'est des gens qui sont pour le statu quo et pour que rien ne change, parce qu'ils savent très bien qu'en l'État, la solution à deux États, elle est inapplicable. Ou alors, il faudrait provoquer une guerre civile en Israël pour que les 800 000 colons qui sont installés en Cisjordanie acceptent de partir. On a vu, pour ceux qui s'en souviennent, comment les 5 000 colons à Gaza ont été évacués et le drame que ça a suscité en Israël en termes de débats, de prise de position, de menaces, etc. Et je rappelle que la grande partie de ces colons s'est retrouvée en Cisjordanie, c'est-à-dire qu'ils ont été compensés. Donc oui, la dimension coloniale, elle est là, mais il y a entre l'hypothèse de la dimension coloniale pour toujours et l'idée d'un État qui demain, alors c'est pas pour demain, mais qui dans longtemps peut-être, sera un État unique avec les mêmes droits pour tous, il y a des réflexions à mener et surtout il y a des engagements à prendre. Et ça, on ne peut pas le faire à la place des Palestiniens. Et ça rejoint la question de tout à l'heure sur, je dirais, le niveau, la vacuité, pardon de le dire ainsi, mais la vacuité des élites politiques palestiniennes actuelles. Parce que on aimerait lire des choses, on aimerait entendre des réflexions de leur part, on aimerait avoir des projets, même si c'est une situation compliquée. Moi, j'aimerais, en tant que journaliste, en tous les cas, j'aimerais lire des choses. Il y a la dénonciation de la situation, je veux bien. Il y a la critique d'Israël, je veux bien. Mais donnez-nous des perspectives. Dites-nous ce que vous voulez réellement. Ne nous prenez pas pour des niais en nous parlant de la solution à deux États, comme, alors que c'est juste une espèce de truc qu'on agite quand on n'a rien d'autre à proposer. Moi, voilà où j'en suis dans mes réflexions par rapport à cette question. Je voudrais que les Palestiniens, enfin, je leur jette pas la pierre, je sais que c'est hyper compliqué, mais en tout cas, ce que je vois une autorité palestinienne dont la seule utilité est de continuer la coopération sécuritaire avec les Israéliens et d'enfermer des Palestiniens à la place des Israéliens. Je trouve que c'est pas à la hauteur des enjeux actuels.
Je reprends la parole. C'est pas pour poser une question, mais juste pour un tout petit peu prolonger sur la question de l'enfermement mental, en quelque sorte, des Israéliens à l'heure actuelle. Peut-être ajouter quelque chose. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que quand on est, nous, accusés, toutes les personnes qui soutiennent la cause palestinienne d'antisémitisme, on sait très bien que ce n'est qu'un calcul politique qui est mené pour essayer de faire sévir contre le mouvement de solidarité. Mais je pense que si on voit ça côté israélien, je parle des Israéliens, il faut ne pas oublier qu'il y a un conditionnement permanent pour expliquer que être juif au dehors d'Israël, c'est être soumis à un antisémitisme qui rend la vie extrêmement difficile, voire impossible. Moi, je pense à un exemple, par exemple, il y a eu un attentat, il y a peut-être 3 mois, 4 mois de ça, en Australie, et je suis à Aretz, qui n'est pas le pire de ce point de vue-là, mais pratiquement, il y a eu un article tous les 4 ou 5 jours sur les interventions vis-à-vis du gouvernement australien pour expliquer que le gouvernement australien ne faisait pas suffisamment pour prévenir ce genre de choses, etc. C'est-à-dire, l'opinion, je pense, israélienne elle-même est complètement conditionnée à l'idée que être juif au dehors d'Israël, c'est ne pas être défendu, c'est être en danger. Et bon, il y a plein d'anecdotes qu'on pourrait citer par rapport à ça. Donc, vous avez mentionné que peut-être 200 000 Israéliens sont partis au cours des 3 dernières années aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc. Bien souvent, ce sont des binationaux. Ce sont des gens qui peuvent facilement trouver un job, qui n'ont pas de problème d'environnement là où ils vont. Mais la majorité des Israéliens, ceux qui sont venus des pays arabes ou d'Iran ou de je ne sais où, ou même ceux qui sont venus il y a une trentaine ou une quarantaine d'années des anciens pays de l'Est, ces gens-là n'ont pas de point de chute. Et donc, eux, ils sont complètement sensibles à cette propagande-là. Et pour eux, il n'y a pas d'alternative. C'est ce qu'on ne cesse de le répéter. Et je pense que ces gens-là, non seulement ils partiront pas, mais ils seront certainement parmi les plus extrémistes, parmi les extrémistes.
Vous avez raison. C'est cette situation paradoxale où vous avez une population, une société qui est persuadée que au-delà des frontières, il n'y a que des antisémites ou potentiellement il y a des forces antisémites qui demandent à intervenir. Mais vous avez aussi, dans le même temps, un comportement de cet État qui engendre et qui met en danger les communautés juives à l'étranger. C'est-à-dire que c'est ce que fait Israël aujourd'hui. Ce qu'a fait Israël à Gaza, c'est aussi mettre les Juifs qui vivent à l'étranger en danger. Et ça, c'est un cercle vicieux dont on se demande comment on va pouvoir le briser. Et c'est pour ça que dans le pas en notre nom, les initiatives de beaucoup de groupes, notamment aux États-Unis, d'étudiants juifs, etc., et tout, démontrent bien qu'ils ont pris conscience de cette problématique-là.
Sur le conditionnement, il y a un film qui a été fait par un Israélien qui s'appelle Defamation. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Il est assez éloquent sur le conditionnement. incroyable quoi, de, des jeunes. C'est quel est le metteur en scène? C'est ça, une petite dizaine d'années. Un peu plus que ça? Alors, je prends une dernière question et il va falloir qu'on conclue ensuite.
Bonjour. Moi, c'était juste pour revenir, parce qu'on dit que le peuple israélien, c'est ceux qui voyagent le plus. Alors, ils se rendent bien compte quand même, vu toutes les sournoiseries qu'ils font dans tous les pays où ils, font, où ils vont, comme, je ne sais pas, en Thaïlande ou même dans les... Enfin, un peu partout, ils sont rejetés parce qu'ils font n'importe quoi. Donc, ils se rendent bien compte quand même que les plans basket et autres, ça ne peut pas passer n'importe où, quoi. Enfin, pour dire que ce que tu as dit, Jean-Pierre, est-ce qu'ils sont réellement conscients que les gens autour du monde sont antisémites? Ben, s'ils voyagent autant, c'est, ils doivent bien se rendre compte de ça. J'ai une question, moi, qui me turlupine depuis très longtemps. C'est, sachant que 60% du territoire est pris par l'armée israélienne, 360 km2. Quoi?
Du territoire de Gaza.
Oui, du territoire de Gaza, on est d'accord. Ce qui fait que ça laisse 216 km de prix, 216 km2. Donc 2 millions d'habitants, soi-disant, vivraient sur 116 km2, sachant que la Haute-Garonne fait... Enfin, j'ai du mal à m'imaginer, sachant que c'était le pays le plus densément peuplé, comment on peut les faire tenir?
C'est l'effet seringue, c'est-à-dire que vous ne les faites pas tenir. L'idée, c'est qu'ils partent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous leur rendez la vie impossible et ils finissent par partir. Sauf que, eux, ils ne veulent pas partir. Et personne ne veut les accueillir.
Alors, ma deuxième question, et j'en ai une troisième. La deuxième, c'est le camp qui a été fait dans le désert du Sinaï. Vous ne pensez pas qu'il va servir à quelque chose, finalement? Et la troisième, c'est, j'ai lu, qu'Israël, alors je croyais qu'économiquement, ils étaient en train de sombrer, mais qu'ils ont fait 35 milliards de chiffre d'affaires d'armement testés sur les Palestiniens, avec ce petit... voilà, alors, j'en finis là.
Sur le Sinaï, il y a un camp, mais c'était destiné, soi-disant, à accueillir des réfugiés temporaires. Il y a une division au sein du pouvoir égyptien. Parce qu'on veut rien de quelque chose qui... On ne veut pas de provisoire qui dure. Je vous rappelle que les camps palestiniens, que ce soit en Syrie, en Jordanie ou au Liban, après 48, c'était provisoire. C'est comme ça qu'on a vendu ça aux populations locales. Aujourd'hui, les camps libanais, au Liban, en tout cas, il n'y en a plus en Jordanie, mais en Syrie et au Liban, ça demeure. Et, pardon ? Il y en a encore en Jordanie, oui, c'est vrai. Mais j'avais en tête le désarmement de l'OLP et après Septembre Noir et le fait qu'on ait poussé une partie d'entre eux vers le Liban. Mais sur le fait, est-ce qu'ils peuvent vivre ou pas, pour moi, c'est vraiment la question fondamentale. Et l'idée qu'il y ait un transfert vers un des pays arabes, notamment la Jordanie, c'est vraiment dans l'esprit de Trump. Et il revient de manière quasi obsessionnelle. Et donc, là, ça nous amène à nous interroger sur la capacité des régimes à résister. C'est-à-dire, est-ce que jusqu'à quand le régime égyptien va pouvoir dire non à Trump? Jusqu'à quand? En disant, pas touche au Sinaï, le Sinaï, c'est à nous. Et la question, elle est vraiment posée là. Et je crois que le calcul des dirigeants égyptiens, notamment, c'est de se dire on essaie de tenir jusqu'au midterm, aux élections de mi-mandat aux États-Unis, où on attend le fait, on tient encore 2 ans, et puis il va partir, et on aura des gens plus raisonnables à la Maison-Blanche, avec lesquels on va pouvoir discuter de manière plus sérieuse. Mais pour le moment, quand vous discutez avec des diplomates égyptiens, etc., qui sont tout de même au courant, notamment sur ce Conseil de la paix qui a nommé un conseil exécutif de 15 personnes qui n'ont même pas le droit actuellement d'aller à Gaza, qui sont censés organiser la transition. Vous vous dites, il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans un contexte où vous avez une population qui survit difficilement. Je rappelle qu'on peut quasiment plus envoyer d'argent à Gaza, sauf par le biais de monnaie électronique, etc. et tout. Que vous avez un verrouillage, que vous avez que rien n'est réglé sur le plan alimentaire, que rien n'est réglé sur le plan de la sécurité et du plan sur le plan de la santé publique. Et on est vraiment dans une bombe à retardement. Et l'actualité regarde ailleurs, parce qu'on a une guerre au Liban, on a une guerre en Iran. Mais je vous garantis que les nouvelles qui viennent de Gaza sont absolument catastrophiques. Rien n'est réglé.
Voilà, on va devoir rendre l'antenne. Merci beaucoup, Akram.
Merci à vous. Merci.
Mémodio, une mémoire sonore.